Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, soyez les bienvenus, moi c'est Déborah Grunewald. Si on ne se connaît pas encore, dans le rétro, c'est un podcast. Chaque semaine, nouvel épisode, comme d'hab, on voyage dans le temps avec notre invité, retour sur sa carrière, sa vie, ses épreuves, ses challenges, ses doutes. Parce qu'en parlant d'eux, il parle aussi un peu de nous. Aujourd'hui, nous sommes avec un être humain pas dramatique, un réacteur, un réalise-auteur. C'est ainsi qu'il se décrit. Mon invité aujourd'hui, c'est Pascal Légitimus, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Pascal Légitimus.
Bonjour Madame de bord.
J'ajouterai que vous êtes un nain connu de grande taille. Et là, on se dit qu'humoriste et auteur, c'est un vrai travail. Je voulais faire mon petit effet, mais non. Bien que vous ayez quand même ri, par politesse.
Oui, parce que c'est un nain connu. Oui, c'est, oui.
De grande taille.
C'est une bonne blague.
Un nain connu de grande taille.
Tout à fait, c'est une bonne blague.
Si vraiment j'avais voulu travailler votre présentation dans cette émission, j'aurais pu dire c'est le plus connu des inconnus.
Wow, le plus visible.
Ou c'est un inconnu connu.
Ah oui, oui, c'est, en fait, beaucoup de journalistes utilisaient toutes ces phrases à l'époque. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu usité, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre, c'est-à-dire qu'on existe encore.
Ouais, mais c'est un peu naze.
Si vous le dites, je prends pas de risque.
Pascal Légitimus, à partir du 3 juin, on vous retrouve dans la pièce Le Bémol. Antoine, chef d'orchestre anxieux, va recevoir un prix prestigieux, mais une fausse note va faire basculer la soirée. Fausse note qui vient de votre ami Philippe. Au fil des scènes, la tension monte, il y a de la jalousie enfouie, des blessures d'ego, des rivalités. Ajoutez à ça l'épouse alcoolique, l'influenceuse New Age, le fan de musique, le luthier admiratif. Qu'est-ce qu'elle raconte de nous, cette pièce ?
Cette pièce, c'est un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a 6 personnages qui représentent des névroses dans lesquelles on peut s'identifier, bien évidemment. Et puis surtout un prétexte à parler de l'amitié, de l'amour, du travail, de cette société anxiogène. Voilà, il y a beaucoup de sujets abordés. Évidemment, cette fausse note est un prétexte, un déclencheur qui nous permet, nous, de faire rire, émouvoir, en même temps apprendre, parce que c'est une belle partition sur la musique.
Dans quelle névrose vous vous retrouvez, vous, Pascal Légitimus ?
Alors moi, je suis bien chargé. C'est l'égotisme avec un grand G, c'est pervers, narcissique, égoïste, prétentieux.
Non mais ça c'est votre personnage.
Bien sûr. Sinon qu'est-ce que je ferais là ? Mais pourquoi on invite quelqu'un de... Oui, non, évidemment. Mais c'est intéressant de jouer des choses qui ne nous appartiennent pas. En tant qu'acteur, le travail c'est de comprendre le sous-texte, ce que le personnage pense, comment il bouge, comment il marche. Et là c'est un travail de longue haleine, ça fait presque un mois qu'on répète. Et c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le petit déclencheur qui fait qu'on va me détester encore plus.
Bah faudrait peut-être le trouver maintenant.
Oui, mais d'ici bientôt, ça va le faire bien sûr.
Et vous m'avez pas répondu. De quelle névrose vous vous sentez le plus proche ? Bah oui.
C'était
non
ça,
mais
là,
sérieusement.
Sans prétention, j'ai pas beaucoup de névrose. J'en ai eu. La carence affective, je pense que c'est une belle névrose, ça, mais je pense que c'est un peu le mal du siècle. La carence affective, qui a été bien guérie, bien sûr, parce que voilà, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, et puis j'ai tout fait pour.
C'est grâce à l'entourage qu'on va combler cette carence affective ?
Bah, si on la trouve pas soi-même ou à travers un divan, avec un psy qui vous aide, qui vous transporte, qui vous met en exergue vos défauts, de manière à ce que vous puissiez dire « Ah oui, d'accord, je suis comme ça, donc comment je peux rectifier cette disharmonie ?» Non, mais ce qui est intéressant, c'est le parcours d'une vie, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Le but, pas forcément, parce que le but, c'est la mort. Et le fait d'y penser, non, mais le fait d'y penser, ça nous rend plus vivants. C'est quoi le but aussi, en fait ? Pourquoi on fait des enfants ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on travaille ? À quoi ça sert ?
Vous avez la réponse à ça ?
Pas du tout. C'est pour ça que je vis chaque seconde comme si c'était la dernière. Depuis à peu près 15 ans, je suis comme ça. Et c'est vrai que ça me ravit plus d'être vivant, de faire plaisir, plutôt que d'être dans l'agressivité, la peur, la haine, la jalousie et tous ces sentiments qui sont quand même pas très agréables. Et surtout qui créent ce qu'on appelle de l'acidité en soi.
La jalousie, justement, il en est question dans cette pièce. Il y a plein de sujets qui sont abordés. L'ambition aussi, vous pensez qu'on peut réussir sans écraser les autres ?
Je pense que Les Inconnus est un bel exemple d'une ambition cachée. Je crois qu'il y a une ambition entre nous qui nous a permis de nous challenger. Par exemple, si Didier fait un sketch en entier, on dit « Ah oui, il a fait un sketch, ouais, c'est super, bon, comment je peux compléter, comment je peux l'aider ?» Si Bernard fait une chanson, je dis « Ah oui, d'accord, qu'est-ce que je peux rajouter ?» Donc, une ambition intériorisée sans que ça se voit, c'est intéressant, mais une ambition qui écrase les autres, c'est pas gentil.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir de la rivalité entre collègues ? Toutes ces questions, je les pose parce que c'est vraiment des questions qui sont mises en exergue dans la pièce.
Mais tout à fait.
Dans Le Bémol.
Un être humain normal est forcément jaloux. Parce que s'il se rencontre, s'il est dans son miroir et qu'il se rend compte qu'il a des défauts, et qu'il rencontre une personne qui est supérieure dans un domaine X ou Y, forcément ça nous renvoie à notre médiocrité. Donc on se dit, alors c'est un sentiment, il ne faut pas qu'il dure, mais c'est normal qu'il existe, ça peut être aussi
un moteur,
un déclencheur et un moteur.
Antoine, dans la pièce Le Bémol, dit à son pote « Depuis que tu as rencontré cette femme, tu n'es plus mon Philippe. Être en couple, ça peut changer une personne, un ami ou une amie en l'occurrence. »
Mais bien sûr, j'ai perdu quelques amis, pas beaucoup, parce qu'ils avaient une compagne ou un compagnon qui n'était pas en harmonie avec l'autre. Souvent on dit « Ouais, c'est pas une fille pour toi, c'est pas un mec pour toi. Mais je l'aime. » Ouais, d'accord, l'amour est aveugle, ok. Et puis ouais, au bout de 10 ans, « Ouais, t'avais raison. » Bon bah... chacun fait ses erreurs, mais des fois c'est utile et nécessaire, c'est un mal pour un bien.
La pièce montre aussi à quel point les non-dits peuvent empoisonner une relation. Est-ce que vous avez appris à dire les choses à temps ?
Oui, déjà la première chose c'est de dire je t'aime à quelqu'un. Moi j'ai eu du mal à le dire parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Par carence affective, parce que bon, j'ai perdu ma mère très très jeune, donc le fait, et mon père était plutôt un taiseux, mais on voyait dans ses yeux, dans ses gestes qu'il y avait de l'amour. Parce que chez les Antillais, c'est un peu compliqué, il y a l'esclavage derrière, donc la famille est éclatée, donc tout ça, c'est on comprend beaucoup mieux pourquoi il y a toutes ces névroses. Moi, j'ai dit « je t'aime », oui, je ne l'ai pas dit souvent, enfin je l'ai dit bien sûr, mais c'est pas facile à dire parce qu'on se met à nu, et se mettre à nu, c'est étaler aussi ses qualités, ses défauts. Si on montre ses défauts, on a peur que l'autre personne nous aime moins. Donc c'est compliqué, mais ça s'apprend. Hein. Et tout ça, ça s'apprend. Et en voyant la pièce, on comprend tout ça.
Pascal Légitimus, il y a donc cette pièce de théâtre, Le Bémol, il y a aussi un roman photo, Vol au musée de la Croûte. À la veille de la retraite, l'inspecteur Slimane enquête sur un vol dans un drôle de musée. Une enquête loin de ce qu'on voit dans les films, clairement. En fait, il passe son temps à remplir des papiers, scanner des codes, parler à des robots. Derrière ça, il y a là aussi une critique sociale.
J'ai adoré faire ce roman photo, c'est la première fois que je... parce que c'est nouveau. C'est une vieille façon de s'exprimer. Les romans photos, ça existait il y a 40, 50, 60
ça
ans.
Ça nous replonge justement à cette époque-là, je trouve.
Tout à fait, oui. Moi, j'en ai lu beaucoup. Alors, c'était plutôt des romans photos de western, de films adaptés, des péplums. J'ai adoré faire ça avec Esteban. Le fait de s'exprimer physiquement avec un dialogue qui est juste à côté...
dans une bulle.
Qu'on connaît. Il faut l'exprimer, non pas verbalement, mais physiquement. C'est très intéressant pour un acteur. C'est un beau challenge. Moi, en jouant ce personnage-là, j'ai exagéré des sentiments qui étaient assez subtils, mais il fallait les exagérer. Donc ça m'a mis dans une position de « Ah tiens, ce sentiment, je ne l'ai jamais joué. » Alors que sachant qu'il y avait la bulle à côté, que j'avais le texte, je me suis dit « Tiens, waouh, comment faire pour exagérer des sentiments que tu n'as jamais interprétés ?»
Comme quoi, comme sentiment ?
Bah, imaginez, par exemple, je dis n'importe quoi. J'ouvre une porte, je sais ce qu'il y a derrière, mais il ne faut pas que ça se voit. Et à la fin de la phrase, il y a une pointe d'ironie. Allez-y. Oui, c'est...
Heureusement, on fait de la radio, ça ne se voit pas.
Voilà. Tout est là.
Pascal Légitimus, Vol au musée de la Croûte, c'est le roman photo avec Antonin Parachetka. Je savais que j'allais le foirer.
Antonin Parachetko.
Voilà.
Parachetko.
Ici, dans le rétro.
On enclenche la téléportation. C'est parti pour notre voyage dans le temps. Pascal Légitimus, vous naissez à Paris, d'origine caucase, cocotier, comme vous le dites aujourd'hui. Votre mère Madeleine est arménienne, couturière, costumière. Votre père Jean est antillais, il est comédien.
Madame, apportez-moi un chocolat et 12 brioches.
Apportez-moi un chocolat et 12 brioches. C'est lui à 4 ans, vous l'avez reconnu ?
Oui, cette voix, ça, c'est la voix de mon père, mais qui a, je sais pas, il a 5-6 ans.
Il a 4 ans. C'est en 1933 dans Bouboule, premier roi nègre. Ouais. En souvenir de ce film, il choisira comme pseudo, en tant que comédien, Théo. Alors, j'ai pas compris, parce que son personnage, c'est Toto, et lui, il choisit Théo.
Oui, en fait, son vrai prénom, c'est Jean. On l'a surnommé Toto. Je crois que c'est ma grand-mère qui l'a surnommé Toto, puis ils l'ont fait Théo.
Ah ouais, d'accord.
Et moi, je faisais la blague Théodore ou Théophile.
Vous avez une grand-mère aussi, actrice et artiste de musical, qui a commencé aux côtés de Joséphine Baker. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'ils se sont battus pour en arriver là ?
Ah oui, encore aujourd'hui, bien évidemment. Mais il n'y avait pas beaucoup de rôles, pratiquement aucun rôle pour des gens à forte pigmentation, parce que tout était écrit, voilà, imaginez un Molière ou un Shakespeare avec des Antillais ou des Africains, mais c'était vraiment quelque chose de très très rare. C'est pour ça qu'ils ont monté la troupe Les Griots, où il n'y avait que des acteurs qui cooptaient des textes américains qu'ils traduisaient, ou des textes de romans exotiques, notamment Rue Cazeneg de Monsieur Zobel. Et puis ils jouaient entre eux, voilà. Et puis de temps en temps, on avait besoin, dans des films, d'une négresse, comme on disait à l'époque, ou d'une nounou, d'une mama. Donc ma grand-mère jouait effectivement beaucoup ce rôle-là.
Justement, en bossant sur cette émission, je me suis rendu compte à quel point le mot « nègre » revenez souvent dans des œuvres littéraires, dans le cinéma, dans les films dans lesquels ont joué justement votre père, votre grand-mère. Ce mot, il a servi pendant longtemps à inférioriser. Au moment de l'esclavage, du colonialisme notamment, le mot nègre, quelle résonance il a chez vous aujourd'hui en 2025 ?
Alors, petite parenthèse, mais qui peut expliquer ce que vous êtes en train de me poser comme question. J'étais dans une soirée un peu pince-fesse à Neuilly il y a quelques années. Ça remonte à déjà plus de 25 ans. J'étais chez les MST, les mocassins serre-tête. Et on était à peu près une dizaine à table. Tout d'un coup, le monsieur qui était à côté de moi, sur ma gauche, un monsieur un peu comme ça, voilà, un peu à la Giscard, très propre sur lui, me dit « Monsieur Légitimus, passez-moi le vinaigre ». Et il me fait « Oh, pardon ». Je dis « Quoi ? Pourquoi pardon ?»« Bah, nègre, vinaigre, ça ne vous gêne pas ?» Je dis « Mais je vois pas le rapport, en fait ». Et donc, pendant toute la soirée, on s'est posé la question « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces types ?» pour qu'il puisse se bloquer sur le mot « vinaigre », croyant me vexer. Et pourtant, c'est un type qui avait forcément fait des études, quelqu'un d'intelligent, mais il y avait encore cette trace.
Ça vous a blessé ?
Ça ne m'a pas blessé, j'ai trouvé ça triste. Moi ça va, je m'en fous, ça ne me touche pas.
Et aujourd'hui justement, qu'est-ce qu'il a ? Parce que ça c'était il y a 25 ans, mais aujourd'hui ce mot « nègre », comment vous le recevez ? Est-ce que c'est un mot qu'on doit bannir aujourd'hui ?
Tout dépend de la personne qui le dit, c'est quoi l'intention ? C'est juste ça. Je peux dire « nègre » avec amour, ou « nègre », « sale nègre », on rajoute l'adjectif « sale » pour faire du mal, ou « sale juif », « sale arabe », oui, pour faire mal. Donc, par contre, « sale blanc », c'est moins agressif, alors que le blanc, c'est ce qui salue le plus. Vous voyez la contradiction ?
Et alors, changer par exemple les diptyques nègres, le titre des diptyques nègres et tout ça, j'imagine que ça, c'est des sujets aussi qui vous intéressent.
Oui, mais pourquoi changer le titre ? Parce qu'il y avait une raison pour laquelle ces titres ont été édités. Non, faut pas changer le passé, je pense. À ce moment-là, on va très très loin. On dit le blackface. Alors, nous, les inconnus, on a fait des blackface dans les Antillaises, les infirmières. Bah, c'est pour exprimer ce qui existe, en fait. Donc, moi, j'aurais pas le droit de me déguiser en blanc à ce moment-là. Enfin, wow, stop.
C'est compliqué quand on est humoriste, ça, aujourd'hui, non ?
En fait, quand c'est mal fait, quand c'est pas très intelligent, oui, là, c'est grave. Mais bon, une bonne blague bien sentie, enrobée d'un petit paquet cadeau, on peut pas plaire à tout le monde. Hein.
Pascal Légitimus, on part maintenant en 1961. Nous sommes maintenant dans le Var, vous avez 2 ans, vous êtes dans un lit en plein soleil, rien d'idyllique. Au contraire, vous êtes à l'hôpital San Salvador à Ayer. Vous avez une maladie des os, vous y restez 18 mois sans voir vos parents. Plus tard, vous évoquez une carence affective, on l'a évoqué d'ailleurs en début d'émission. Est-ce que cette carence affective, elle se fait ressentir dans la vie d'adulte ? Vous disiez que vous aviez appris depuis un certain temps à la combler, cette carence, mais elle se fait ressentir encore aujourd'hui parfois ?
En fait, le carburant pour les êtres humains, c'est l'affect. S'il n'y a pas d'affect, un enfant meurt. Hein. S'il n'a pas la vision de ses parents, si on n'est pas rempli d'amour, on meurt. Bon, ça, c'est pour tous les êtres humains, même pour les plantes. Hein. Vous mettez du hard rock à une plante, elle meurt. Vous mettez de la musique classique, elle est plus vivante. Oui.
Je vais faire le test.
Vous connaissez Emoto, c'est un monsieur japonais qui a travaillé sur la mémoire de l'eau. Voilà, comme on est fait de 80% d'eau, si je vous insulte, si je vous dis des choses horribles, votre liquidité en vous va s'acidifier, si je puis dire, pour faire un néologisme. Donc ça, c'est prouvé scientifiquement que plus on est agressif, plus l'être humain se détériore. Moi, quand j'allume la télévision, c'est meurtre A, crime A, c'est que des choses comme ça. Même le générique sur TF1, j'ai ouï dire qu'il y avait quand même des harmonies qui correspondaient à la chanson des Dents
sur
de la Mer.
Sur le JT de 13h.
Ouais, des Dents de la Mer. Donc, tout ça, c'est anxiogène. Donc, oui, pendant des années, j'ai été privé de cet amour, de ce tube par lequel on est alimenté. Mais heureusement, j'avais quand même une famille, des frères et des sœurs, de ce cocon familial qui me permettait, moi, de survivre. Et comme j'étais l'aîné, j'avais une responsabilité. Donc, ça m'a fait un peu oublier cette carence affective, parce que je donnais de l'amour à ma famille.
Pendant votre absence, Pascal Légitimus, votre mère a donné naissance à votre petit frère. Quand vous rentrez à Paris à 4 ans, vous avez le sentiment d'avoir été remplacé. Vous êtes mutique, vous devez apprendre à parler, marcher, accomplir des gestes simples. Votre père vous a inscrit d'ailleurs très vite au théâtre. Mais avant ça, qu'est-ce que vos parents vous disent à ce moment-là ? Comment ils vous réconfortent ? Parce que j'imagine que ça inquiète un papa ou une maman.
Je n'ai aucun souvenir de cette période, bizarrement. Mais je me vois dans la maison, dans notre petit 60 mètres carrés, on était 6, je me vois jouer avec des petits soldats, faire de la peinture, chanter, jouer de la guitare. Je n'ai pas senti le poids du manque, quel qu'il soit, parce que je pense que mes parents avaient fait le nécessaire et s'étaient rendu compte que une famille c'est une famille, on fait ce qu'il faut, on équilibre, on harmonise. Non, c'est plutôt quand j'étais à l'école que je voyais une famille, on va dire, normale, des enfants normaux dans leur comportement, je me disais, mais je ne suis pas comme eux, je suis différent. Parce que je ne m'exprimais pas, j'étais dans mon coin tout seul. C'est plus tard que j'ai compris que l'humour me permettait d'être adopté, parce que je faisais rire les copains.
Justement, vos années d'école, de lycée, on va en parler dans un instant. Pascal, on parlait de la famille tout à l'heure. Quelles ont été les valeurs transmises par vos parents ?
Beaucoup de philosophie. Mon père éditait beaucoup de phrases qui résonnent encore en moi.
Vous en avez une en particulier ?
À partir du moment où je commençais à faire mon métier, il me disait « Tu sais ton texte, tu arrives à l'heure. Observe, écoute, lis beaucoup. » Essaye de comprendre les non-dits, les non-vus, voilà, des choses toutes simples comme ça.
La philosophie, donc, ils vous ont
transmis. Oui, beaucoup de philosophie. Alors, ce que faisait mon père, c'était assez intelligent parce qu'il déclenchait notre imaginaire. En fait, tous les soirs, il nous lisait un livre. Et notamment, c'était le Chevalier de Pardaillan de Michel Zévaco. Il y a 10 tomes. Tous les soirs, il nous lisait un petit morceau, 2-3 pages. Et donc, on avait cet imaginaire qui se mettait en place avec ces petites ruelles sombres, les carrosses, l'espèce de pavé mouillé, toutes ces ambiances un peu cinématographiques. Et déjà, moi, j'avais mon imaginaire qui se mettait en place. Et quand je voyais les films, j'étais en correspondance avec ce que je voyais. Je dis, waouh, j'adore, j'ai envie de faire ça. Donc, je pense qu'il a mis la petite graine pour que je devienne acteur, peut-être.
On fait moins travailler l'imaginaire aussi.
Bah avec le portable, voilà, on prend plus de photos, on n'écrit plus.
On prend plein de photos justement.
Non mais des photos, des vraies photos, c'est-à-dire qu'il y a une composition. Là c'est clac-clac. Là une photo, il y a une réflexion avant de prendre une photo. Non, aujourd'hui c'est compliqué. Les enfants sont, enfin le cerveau se réduisent de moitié, hélas.
On part maintenant dans le 16e arrondissement de Paris, au 1 avenue Parc des Princes, téléportation. Que se passe-t-il ?
Pourquoi à un moment du Parc des Princes ?
Bah parce qu'on est au lycée Claude Bernard.
C'est ça, c'est l'adresse. Je me rappelle plus de ça. Ok.
Pascal Légitimus, vous êtes plutôt au fond de la classe ou au premier rang ?
Au milieu.
Ah, oh, ça, c'est bien.
Moi, j'ai toujours eu 12-13 de moyenne, au milieu, toujours.
Pas mal.
Ouais, toujours.
Vous disiez tout à l'heure, vous vous sentiez différent en quoi ?
Bah, différent parce que je ne parlais pas. J'existais pas. Voilà, légitimutique. Voilà, c'est pour faire un petit jeu de mots. Non, j'étais vraiment insignifiant. Même deux signifiants. Ouais.
C'est dur de dire j'étais insignifiant.
Ben oui, mais j'étais poli, dans le sens polir, quand j'étais jeune, parce que j'ai pas exercé tous mes 5 sens. Donc quand ils ont pas été exercés entre 2 et 4 ans, on sait pas comment ça se passe. Par contre, l'ouïe, la vue, oui, effectivement, mais sans plus. Et c'est en observant mes congénères que j'ai compris comment le système et la société fonctionnent.
Au lycée, vous créez un club de théâtre avec vos potes Daniel et Eric. Vous imaginez plein de pièces, vous improvisez. Finalement, vous suivez les traces de votre famille, qui était une famille d'artistes. Vous pensez que la famille, elle influence notre orientation professionnelle parfois ?
Ah bah, évidemment. Évidemment, mais souvent, malheureusement, il y a des pères ou des mères qui disent « tu feras Polytechnique, tu feras l'ENA, tu seras avocat ». Les enfants, ils disent oui pour faire plaisir, mais au fond d'eux, ont-ils vraiment envie de faire ce que leurs parents leur ont indiqué, leur ont imposé ? Moi, mon père m'a sauvé en me faisant faire du théâtre, et comme je me suis senti très très bien sur scène, je me suis dit « je vais prolonger le plaisir ». C'est pour ça qu'avec Daniel Schick et Eric Sivagnan, en 6e, on a créé un club théâtre parce qu'on avait envie de s'exprimer. Et quand je m'exprimais à travers des textes de Pierre Dac, des Frères Ennemis, Molière ou du Shakespeare, et tous les ans, on montait des spectacles. Et moi, j'étais heureux, joyeux.
Pascal Légitimus, destination maintenant 1974. Nous sommes maintenant chez vous, vous avez 15 ans, vous mettez la table, vous mettez le couvert, même pour votre maman qui n'est plus là, elle a eu un cancer. Mettre le couvert pour elle, c'est une façon de se dire qu'elle est encore présente.
Mais pour moi, elle n'était pas décédée, elle était toujours là. Enfin, c'est-à-dire que c'était des réflexes, on avait des réflexes. Bon alors on met, non en fait. Donc on laissait l'assiette avec le couvert. Mon père a trouvé une compagne 1 an et demi, 2 ans plus tard, qui s'appelle Marie-Thérèse. Et donc cette femme nous a beaucoup aidés parce qu'en fait, alors elle n'a pas comblé cette carence affective, mais en tout cas il y avait une personne qui couvrait un peu toute cette absence.
Est-ce que c'était une personne qui remplaçait ?
Non, on remplace pas une mère, évidemment. Le cordon ombilical n'est pas coupé. Non, mais c'était une présence féminine qui nous ravissait, qui nous protégeait.
Qui vous a ravi dès le début ?
Non, au début j'étais
plutôt... Ça fait bizarre peut-être au début.
Bah, on est dans un conflit... C'est complexe, quelqu'un qui remplace votre mère au sein de la famille, on voit ça d'un mauvais œil. On dit mais pourquoi ? Donc on est mal à l'aise, on est malaisé. Mais au fur et à mesure, on comprend que cette personne est là par amour, elle n'est pas là contre nous. On le comprend très très vite, et notre père nous a bien expliqué, voilà, j'aime cette personne, elle est là maintenant, bon bah, alors on l'a accepté. Et moi je suis parti très très vite, donc j'ai pas suivi tout le cursus. Ma mère est décédée, j'avais 15 ans, je suis parti à 19, vivre ma vie, c'est-à-dire essayer de bosser quoi.
Après le départ de votre maman, Pascal Légitimus, vous avez du mal à poursuivre vos études, vous travaillez comme clown dans un hôpital. Faire rire un enfant malade, j'imagine que ça produit une joie immense. Ça apaise, ça donne du sens aussi à notre vie. Mais comment on fait abstraction de l'hôpital, de la maladie et de la souffrance?
En fait, j'ai essayé de faire ce qu'on aurait pu me faire à moi, que je n'ai pas eu. C'est-à-dire aller à l'hôpital, moi j'étais dans un hôpital, et faire plaisir, égayer des enfants. Pour moi, c'était comme un rattrapage. Donner aux autres ce qu'on n'a pas eu, voilà, tout simplement.
Et vous arrivez du coup à faire abstraction quand vous avez des enfants malades en face de vous?
Oui.
Vous n'avez jamais craqué
Alors, moi, j'ai une capacité, je ne sais pas d'où elle vient, à fermer des écoutilles, à faire abstraction de certaines choses et d'aller droit au but. C'est pour ça que quand je rentre dans un hôpital ou dans une chambre d'hôpital, alors il y a le côté « Oh, ça va, mamie, tu vas bien? On s'occupe bien de toi? On est triste. » Moi, c'est plutôt « Ouais, bon, alors, mamie, on se fait un petit uno, on se fait un petit tennis. » Voilà, c'est de se forcer à d'envoyer de l'amour, de la gaieté, de la joie, même si c'est un peu faux, mais en essayant, on arrive à se convaincre et on est dans cette énergie-là, du coup, ça fait plaisir à l'autre.
Et quand on rentre chez soi?
Bah, quand on rentre chez
soi, craque, on pense, on se refait le film.
Oui, forcément. Moi, il y a deux choses qui m'effraient, c'est la douleur et la maladie. Je dirais même encore mieux, la douleur et la solitude. Quand on a 80 ans, qu'on est tout seul et qu'on a un mal de chien parce qu'on a une maladie, qu'on n'a qu'une envie, c'est de mourir. Voilà, si je pouvais éviter ça, je serais très heureux.
Je crois que vous aviez partagé le témoignage d'une mamie de 103, 104 ans sur votre Instagram, justement.
Oui.
Ouais, hein, ça
oui,
me
oui,
parle.
Oui, il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, je vais de temps en temps dans des EHPAD. Ça m'arrive d'aller voir des personnes très âgées qui sont absentes ou pas, mais voilà, je les fais marrer, quoi. C'est parce que moi, ça me fait du bien. Parce que je me dis, quand je serai vieux, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me fasse des blagues.
C'est vachement bien de faire ça.
Oui, mais vous savez, on est sur Terre, ok, alors c'est un cliché, mais c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? On est une particule, une poussière dans l'univers, c'est quoi le but? Alors, autant faire des choses positives.
Est-ce que vous apprenez des choses de ces gens-là qui sont dans les EHPAD, justement, parce qu'ils doivent avoir des histoires incroyables ou des...
Ah bah moi, j'adore la transmission.
Bah ouais.
J'aimerais bien ouvrir une université où on met toutes les personnes du troisième âge qui sont à la retraite et qui nous transmettent des choses. Du ping-pong, de la belote, voilà, des mathématiques. Et puis voilà, de temps en temps, eux, ça leur ferait du bien. Mais je comprends pas pourquoi on les met plutôt dans des EHPAD, on les oublie. C'est... Ouais, en France, on n'est pas très bien lotis pour ça.
Téléportation.
Ah bien, je viens de voir, j'ai rien compris. Écoute, t'as compris quelque chose, toi?
C'est évident, moi, ça me parle, moi j'y comprends, j'ai tout compris, moi, c'est clair comme de l'orange.
Non, bah attends, non, sois sympa, explique-moi.
Et tu m'excuses, j'ai un rendez-vous, là.
En 1982, on vous découvre dans le Petit Théâtre de Bouvard, émission humoristique qui cartonne à l'époque. Peu de temps après, on découvre Les Inconnus. Vous êtes cinq à l'époque, Didier Bourdon, Bernard Campan, Seymour Bruxelles, Smaïn et vous. 1985 sort alors le premier film des Inconnus.
Alors les gars, c'est reparti comme avant? Bah, rappelez-vous, le serment.
Avec ce serment, on est unis pour la vie. C'est ma grand-mère qui me l'a dit.
Pouf, pouf, patapouf, on se tape dans les mains. Pouf, pouf, patapouf, on sera toujours copains.
On échange notre sang?
Le téléphone sonne toujours deux fois dans ce film, Smaïn et Momo. Vous, vous êtes Blackie. Smaïn, après Les Inconnus, il a expliqué qu'il ne voulait pas être l'arabe de service. On en avait discuté ici. Est-ce que vous comprenez qu'il ait pu ressentir ça?
Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est parti. Il y avait notamment ça. Mais en même temps, c'était aussi à lui de ne pas se laisser faire. Hein. Il était assez grand pour ça, je pense. Et surtout, il avait envie surtout de faire son one man. Smaïn est quelqu'un d'assez solitaire. Il est orphelin deux fois. Donc déjà, dans son processus psychologique, c'est compréhensible de le voir agir comme ça. Donc il voulait faire son one man. Et puis nous, on avait plutôt l'esprit de troupe. Donc on est resté à quatre. Après, Seymour Bruxelles est parti parce qu'il était en divergence d'opinion avec notre producteur. Et on s'est retrouvé à trois. Voilà.
Est-ce que vous avez eu parfois l'impression d'être le noir de service?
Oh, pas du tout. Alors, d'ailleurs, je ne suis pas noir déjà. Je suis métisse.
Oui, métisse.
Non, mais non, je suis métisse.
Non, c'est vrai, j'ai fait un raccourci.
Oui, oui, oui,
c'est vrai, il ne faut pas faire de raccourci comme
ça. Oh là là là. Omar Sy, il est noir. Hein. Moi, je
non,
suis
mais c'est vrai. Mais vous savez, quand j'ai écrit la question, je me le suis dit moi-même. Je me suis dit, vas-y, pose quand même.
Non, non, mais j'ai très bien compris la teneur de votre substantifique moelle de question. Non, non, moi, au contraire, je pense avoir servi au sein des Inconnus une cause noble, c'est-à-dire de représenter la société française et de pouvoir critiquer certaines choses avec certains angles. J'ai fait l'arabe, le chinois, voilà, l'américain, enfin, tous les rôles possibles et inimaginables. On a fait quand même 182 sketchs. Mais le fait que je sois là, ça a permis de dire beaucoup de choses, parce que c'était de l'auto-dérision.
Les Inconnus dans les années 90, c'est Didier Bourdon, Bernard Campan et vous, Pascal Légitimus. Le trio a fait marrer toute une génération, même plusieurs, avec des sketchs, des parodies. Aujourd'hui, on vous pose souvent la question.
Mais peut-on rire de tout aujourd'hui ?
Mais peut-on rire de tout ? Éternel débat, Pascal Légitimus.
Bah oui, mais ça dépend comment.
Non, mais je voulais pas poser cette question-là, ouais. Parce que tout le monde vous la pose. Ah, mais si, par contre, vous, vous dites, on peut rire de tout s'il y a une intelligence d'écriture. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une intelligence d'écoute aussi ?
Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sur Terre, il y a des cons, il y a des gens intelligents, enfin, il y a un peu de tout. Il y a des grosses légumes et des petits cons en ombre. Mais surtout, d'avoir de l'humour, c'est important. D'avoir du recul, surtout. Comme je disais tout à l'heure, on va mourir un jour quand même. Donc, si on ne met pas un peu de sel, un peu de poivre, du curcuma, la nourriture est fade. Non, l'humour est très utile parce que ça permet, la métaphore un peu rude, mais... Vous avez un bouton avec du pus, vous appuyez dessus pour que le pus sorte. L'humour sert à ça. C'est l'effet miroir qui se met en place.
Ouais, mais quand on appuie sur le bouton, ça peut faire mal.
Mais oui, c'est un mal pour un bien.
Mais aujourd'hui, ça blesse beaucoup de gens. Il y a plein de choses qui
Tant
blessent.
Tant pis, on ne peut pas rire avec tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est avec tout le monde. Les gens se sont toujours exprimés. Sauf que là, maintenant, ils ont les moyens de s'exprimer. Le danger, il est là. Et là-dedans, il y a des gens qui ne devraient pas critiquer.
On s'excuse de plus en plus.
Oui, parce
après
qu'on
a... une blague.
Oui, parce qu'on a peur. On a peur d'être viré. Voilà, ben, quand on est viré, ben, on gagne moins sa vie. Et puis par les temps qui courent, voilà, c'est complexe. Avec le...
Mais est-ce que s'excuser, c'est pas baisser les armes alors ?
Oui, bien sûr, c'est baisser les armes. Mais il ne faut pas s'excuser. Il faut s'excuser si on a tort. Il faut assumer la blague, il faut l'assumer. Nous, les Inconnus, on était très très loin quand même. Hein. Mais sauf que nous, on avait des personnages. Donc il y avait quand même un pare-feu, il y avait une distance qui nous permettait de dire beaucoup de choses, mais sous une certaine forme. Et je ne pense pas que les gens puissent dire « Ah ouais, ils ont eu tort !» Non, nous, au sein des Inconnus, si les trois rigolent, ouais, ça marche. S'il y en a deux qui rigolent, ok. S'il y en a qui rigolent, non, on la jette.
Aujourd'hui, il y a moins de choses qui font rire les Inconnus ?
Il y a beaucoup de choses qui nous font rire aujourd'hui. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, on ne fait pas rire avec du bonheur, donc plus les choses sont graves, plus c'est drôle. Moi, je ris tous les jours, hélas.
Oh bah, il y a du boulot là en ce moment.
Ah bah là, il y a de quoi faire.
Vous pensez, Pascal Légitimus, qu'on peut apprendre à notre enfant à avoir le sens de l'humour ?
Bah oui, ouais, bien sûr. Moi, mes enfants, ils ont le sens de l'humour, c'est-à-dire ne pas se prendre au sérieux, faire des blagues tout le temps. Moi, j'ai toujours appris à mes enfants de l'histoire, des mathématiques, de la géographie, mais avec humour. Ça passe beaucoup mieux.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
On part désormais en 2011. On est en 2011.
Ouais, alors,
vous savez où on est ?
Dans une maternité ?
Ouais.
Pourquoi 2011 ?
Nous sommes à la maternité, le bébé qui pleure, c'est votre deuxième enfant.
Alors c'est 2010.
Ah merde !
Ah bah oui, celui-là...
Parce que je me disais, ah bah, il met du temps à réagir
bah,
quand
celui
même.
Celui de 2011, je ne le connais pas, celui-là, il n'est pas de moi.
Donc on est en 2010.
Tout à fait.
C'est votre deuxième enfant, vous êtes papa de deux filles. Rien que leur prénom, c'est une déclaration d'amour. Luna Darling, qui signifie chérie, et Alicia Belle, l'amour d'un père pour ses filles, vous le définiriez comment ?
Ça se définit pas, ça se ressent, ça se vit. Voilà, je peux pas expliquer l'amour d'un père, c'est naturel. Hein.
Est-ce qu'il y a des moments qu'on appréhende quand elles vont être, je sais pas moi, ados, quand c'est leur première sortie, les premiers amours, le mariage, tout ça, tout ça ? Qu'est-ce qu'un papa appréhende quand il a des filles ?
On a peur que nos filles rencontrent de la mauvaise testostérone. Évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les MeToo. Moi, quand j'étais gamin, je traversais Paris, j'avais 7, 8, 10 ans, sans problème. J'allais de chez moi au théâtre pour travailler. Je prenais le bus, le 27, qui partait de la Porte d'Ivry pour aller à l'Opéra, mais sans problème. Je prenais même le métro. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des prédateurs. On sait comment les hommes fonctionnent, comme certaines femmes fonctionnent, parce que des fois, il y a aussi des choses un peu anxiogènes. Donc, c'est compliqué. Quand on voit les actualités avec le nombre de viols, d'agressions, quand on a des filles, forcément, on est aux aguets.
C'est-à-dire que vous les empêchez de sortir, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais...
C'est cadré.
Ouais, c'est cadré, ouais.
C'est cadré. Elles ont un GPS. Elles ont 4 puces.
Vous les suivez ou pas
Elles
parce
ont
que
un talkie-walkie.
par satellite, j'ai un satellite privé, madame, où je les repère à 10 000 km.
Non, vous déconnez, mais sérieusement, on n'est pas loin de ça quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, grâce au téléphone portable, localiser...
Oui, alors...
Vous avez la localisation ou pas?
De la petite... ma femme, là, moi, je ne l'ai pas, mais je l'appelle de temps en temps. Mais surtout, je vais donner... Elle a fait un petit cours de Krav Maga il n'y a pas très longtemps. Oui, on en est là, quoi. Donc... Et puis après, il y a la rançon, parce que quand on est médiatisé, on se dit « Ah, il a de la thune, lui, peut-être quoi. Ouais. » Bon, évidemment, alors pour ça, je gagne très peu d'argent. Ça rentre, ça sort. L'argent, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va.
Au micro de David Laroche, Pascal Légitimus, vous avez expliqué un jour l'importance d'observer son enfant.
Mais c'est une évidence pour moi. Il n'y a pas d'école des parents.
Non.
Donc, on l'apprend sur le tard. Donc, on fait que des erreurs, on fait beaucoup de bêtises. Et peut-être que sur une phrase, une mauvaise intention, un enfant peut bifurquer s'il n'a pas le regard, la bonne phrase, le bon geste. Donc, observer son enfant, je crois que c'est une des méthodes, chacun fait comme il veut, qui m'a permis, moi, de comprendre et puis après d'affûter derrière.
Est-ce que parfois, vous avez envie de dire des choses et vous vous retenez de les dire et vous vous dites « Non, ça, je ne vais pas le dire comme ça ». Parce que ça peut avoir tel impact.
Oui, bien sûr. Oui.
Quoi, par exemple? Vous avez des exemples?
Toutes ces phrases, vous savez, toutes ces phrases. Baisse les yeux. Tu sais à qui tu parles? Non, mais va dans ta chambre. Tu vas t'apprendre celle-là. Hein, non, mais oh, qu'est-ce qui m'a donné une fille pareille? C'est bien la fille à sa mère, ça. Vous voyez, toutes ces phrases.
Ça, c'était des phrases que nous, on pouvait entendre, non?
Mais bien sûr.
Ça,
Déborah,
vous dites pas.
Tais-toi, Déborah. T'as fini, oui. Mange ta soupe. Tu vas t'en prendre une. Oh! Oui, c'est un enfant, il reçoit ça, c'est violent. Donc, faut faire différemment. Il y a des enfants qui seront amorphes, qui vont rien ressentir, qui s'en foutent. Et il y en a d'autres, juste un geste, un regard, pas au bon moment, pas au bon endroit. Souvent, je vois des parents qui emmènent leurs enfants à l'école, bien entendu. Le père, il est pressé ou la mère est pressée, donc ils ont rendez-vous au bureau à 9h30. Il est moins quart, il faut que l'enfant soit à 9h à l'école, et ils avancent. Et le gamin, il traîne. Et donc le gamin, il traîne. Mais s'il n'y a pas une discussion, un partage, le gamin, c'est quoi? C'est un paquet qu'on emmène, c'est quand même un être vivant, donc il faut l'accompagner. C'est compliqué.
Ça m'est arrivé, je pense que ça arrivait à beaucoup.
Mais à tout le monde.
Ce genre de choses.
Parce qu'on a nos priorités. Alors, pourquoi on fait des enfants alors si on s'en occupe pas? C'est quoi le but?
Puis on est speed.
Et on est speed. Donc le speed, l'enfant il le reçoit. Puis plus tard il va reproduire les mêmes codes. Non. Faire des enfants c'est un métier. Et je crois que c'est la famille qui crée des monstres. Hein. Tous les prédateurs ou prédatrices qui existent sur Terre, je pense pas qu'il y ait une usine de violeurs ou de. Oui. Donc c'est la famille.
Et l'éducation. Bon, là, je vais foirer donc du coup ma transition, puisque 2011, papa pour la deuxième fois, non, c'était en 2010, parce que je voulais dire qu'en 2011, donc cette année-là, on découvre votre spectacle Alone Man Show.
Alors Pascal, comme ça, tu es toujours dans le show business. C'est bien, mais fais attention, méfie-toi. Hein. Il faut pas péter plus haut que son derrière, sinon tu vas puer de la gueule.
J'aime bien ça. Ça m'a fait rire, je la garde du coup.
Pour la ressortir. J'ai essayé d'inventer comme ça des petites métaphores philosophiques parce que ma grand-mère, Darling Légitimus, avait souvent des petites phrases comme ça. Alors, je les ai plus en tête, donc j'en ai inventé pour la représenter. C'était un hommage, voilà, pour elle. Et puis, à toutes ces Antillaises qui sont nonchalantes. J'ai vécu quand même dans les deux milieux, comme je dis, arménien et antillais. Donc, c'était cocasse, cocotier, comme je le dis souvent. Et c'est vrai que ce sont deux énergies complémentaires, en même temps très différentes, mais qui, moi, me ravissent toujours parce que il y a beaucoup d'amour là-dedans.
Spectacle autobiographique, Alone Man Show, introspectif aussi. Est-ce que c'est un spectacle qui vous a obligé à affronter des vérités sur vous-même que vous aviez mises de côté jusqu'alors?
En fait, j'avais besoin que les gens comprennent qui j'étais, pas vraiment, mais qui j'étais au fond de moi. C'est-à-dire, il y a la carapace, donc il y a l'aspect un peu métissé. Mais les gens ne savaient pas, pour une partie, que j'étais aussi arménien. Parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, il n'y a pas d'odeur. Ah, t'es arménien, toi, tu sens mauvais. Non, blague à part. Tout ça pour dire que j'avais besoin de dire, voilà, attendez. Légitimus, c'est un Antillais, c'est la Guadeloupe. Non, attendez, il y a aussi autre chose. Donc, pour rééquilibrer tout ça, j'ai dit, tiens, je vais faire un spectacle autobiographique, évidemment, en mélangeant l'humour et l'affect. Donc, c'est un peu mon histoire, mon parcours. Plutôt que d'écrire un bouquin autobiographique, j'ai fait une biographie.
Pascal Légitimus, il y aura des pièces de théâtre, Non à l'argent, L'ordre des choses, L'invitation, Le duplex, il y aura des séries télé, du cinéma, de la photo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour être un homme heureux?
Pas grand-chose. Ce qui me manque, Alors, je vais faire ça par le biais. Ce qui m'ennuie plutôt aujourd'hui, c'est d'avoir de moins en moins de liberté. Je sens que par rapport à mon métier, ma vie privée et professionnelle et sociale, l'étau se resserre. Et ça, ça m'ennuie énormément. Qu'il y ait beaucoup de policiers qui me demandent « papier s'il vous plaît » ou des radars, des contrôles, des caméras. On n'a plus le droit de faire ceci. Maintenant, bientôt, l'euro sera numérique. Je me dis « oh là là, attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Alors, moi, ça va, mais pour les enfants, les générations qui arrivent, je trouve ça très anxiogène. Je dis « mais c'est pareil, c'est quoi le but ?» Pourquoi resserrer? Pourquoi nous contrôler?
C'est quoi le but?
Oula, je vais pas entrer dans des... Ouais, mais c'est ça qui m'ennuie. Sachant que dans mon ADN, il y a encore l'esclavage qui traîne quelque part, le fait qu'on a manqué de liberté, qu'on a été déplacé. Même les Arméniens, pareil, ont souffert. Il y a quand même eu 1,2 million de morts. Donc j'ai ça dans mon ADN, me dire, j'espère que j'ai pas envie de revivre encore ça par rapport à tout ce qui se passe, quoi.
Ça vous fait peur?
Ça me fait pas peur. Je contrôle, je maîtrise, je sais à peu près où je vais, j'ai compris ce qui se passe. Mais c'est pour mes enfants, je veux dire, comment je vais les éduquer pour qu'ils puissent ne pas subir, tout simplement. Voilà.
Pascal Légitimus, vous êtes un gentleman. Vous utilisez sur Instagram le mot gentleman pour vous définir ou définir vos actions.
Ouais.
On va terminer l'émission avec un extrait de quelqu'un qu'on n'entend pas sur notre antenne d'habitude, mais qui cartonne. C'est le rappeur Dadju avec Gentleman 2.0 et sa définition justement d'un gentleman.
C'est ça, être un gentleman 2.0. Je rentre pas forcément dans les codes, je suis pas en costard cravate, je tiens pas la porte, je tiens pas la chaise. Mais je suis là pour mes proches, pour ma famille. Je travaille pour eux, je vis pour eux, je tuerai même pour eux. Même si j'arrive pas forcément à le dire.
Pour vous, c'est quoi être un gentleman en 2025?
C'est un gentil garçon dans le sens propre du terme. Mais je me définis plus comme quelqu'un de glumour. Glamour, j'essaie d'être classieux, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire d'être dans l'équilibre. Et puis d'avoir de l'humour, évidemment, parce que j'ai beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe. Et ça me permet, moi, de vivre et de survivre. Voilà. C'est gentleman, je trouve que ça me définit bien.
Glumour, moi, je pense à un pot de colle.
Ça, c'est votre...
Mon interprétation.
Oui, interprétation. Mais bon, ça vous regarde, hein, Madame Desbo.
Merci Pascal.
Ben merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de divan, mais c'est un peu comme ça chez vous. Hein.
Non, oui. Mais c'est des réflexions sur la vie.
Ouais,
sur
Moi, j'aime pas trop me livrer, mais bon, ces émissions me permettent un peu de temps en temps de remettre les pendules à l'heure. Mais parce que je suis quelqu'un de toujours pudique. J'ai quand même un fort intérieur que j'aime garder pour moi. Et de temps en temps, c'est bien que les gens puissent dire « Ah oui, d'accord, il a cette opinion-là, il pense ça, ok. Ah oui, bah ok, je... »
On peut se retrouver aussi dans un parcours comme le vôtre, pas forcément sur l'aspect de la notoriété, mais sur des choses que vous avez traversées, sur des questions que vous avez, que vous vous êtes posées. Ça rassemble aussi, non?
Certes, mais je pense que dans mon métier, à travers les choix artistiques que je fais, on peut aussi sentir ce que je défends. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'impression de faire doublon entre ma vie privée que je raconte de temps en temps, des bribes à travers des émissions comme la vôtre, qui sont très sympathiques d'ailleurs, que j'apprécie parce que voilà, c'est détendu. Mais en même temps, j'aime bien garder un peu part de moi, parce que par exemple, si je pleure en direct à la télévision, si je pleure pour une raison, et que je pleure dans un film, les gens ne seront pas surpris. Donc vous voyez, je suis quand même un acteur, et si je me livre dans ma vie privée, j'ai l'impression de faire doublon, comme je l'ai dit, voilà, tout simplement.
La séance, c'est 65 euros. J'accepte les chèques et les cartes bleues.
Alors j'ai 150, je suis désolé.
Oh, mais ça me va. Merci Pascal Légitimus.
Merci à vous.
Le Bémol, c'est une pièce de Cyril Massaroto au Théâtre des Variétés à Paris, coup d'envoi le 3 juin, des dialogues percutants, personnages savoureux, mordants et intelligents. L'humour et la musique s'accordent à la perfection. Aux côtés de Pascal Légitimus, vous retrouvez Anne Parillo, Lionel Abelansky, Anne-Sophie Girard, Bertrand Mounier et Solé. Il y a le roman photo aussi qui décrypte notre époque, Vol au musée de la Croûte avec Antonin.
Alors ça, c'est le réalisateur, Pérez Chaco, et c'est Esteban qui est avec moi.
Et donc, Artimus, un monde fascinant autour des coquillages et de la photo, immortalisé par Pascal Légitimus, c'est sur Instagram, il y a un site internet aussi avec vos jolies photos.
Voilà, les gens peuvent acheter ou pas, comme ils veulent.
Merci d'avoir fait ce voyage dans le temps avec nous, passez un super bon week-end, prenez soin de vous, salut.